Radio Don 2024.
L'espérance à son antenne.
Il est 20h pile, la première veillée de ce Radio Don 2024 va débuter. Beaucoup de personnes en plateau. On est sur une petite dizaine, voilà, pour nous accompagner pendant 2 heures lors de cette première veillée. Il y aura des temps de musique, évidemment, pour vous laisser le temps de nous appeler. Il y aura un tirage au sort aussi. Si vous faites un don entre 20h et 22h, vous allez pouvoir tenter de remporter un cadeau. Voilà, c'est comme ça, c'est la générosité sur Radio Présence. Justement, les cadeaux, on va en parler. Les cadeaux, c'est le moment du Radio Don. Vous le savez, on ne les paye pas, ces cadeaux. C'est des cadeaux que des partenaires historiques de Radio Présence nous donnent. Ils nous les donnent et puis nous, on vous les fait gagner, tout simplement, voilà, pour vous faire plaisir. Alors appelez-nous 05 62 48 63 00. Il y a du monde. Il y a Valérie Poirier qui s'occupe de choisir les cadeaux qu'on vous fait gagner tout au long de l'année. Il y a Yannick Galupini que vous avez l'habitude d'entendre sur Radio Présence et qui est aussi au standard. Sylvette aussi, une personne de l'ombre de Radio Présence, vous attend. 05 62 48 63 00. On est sur quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 11 personnes! 11 personnes en studio. Elle ne s'entend pas. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Ah ben bah là, il y a du monde.
Bonjour,
hein.
Et puis.
Ça rentre aux chausse-pieds là.
On est en direct.
On est en direct. Allez, si je coupe la musique, il n'y a plus de musique.
Ah oui,
je vais
donc,
laisser un petit peu.
Bonsoir Jonathan.
Comment ça va Nathalie? Beaucoup de monde en plateau.
Oui, mais Nathalie n'a plus ses papiers donc.
Eh ben Nathalie va aller les chercher.
Elle va aller les chercher.
Au revoir. Voilà. Ça c'est best-of Nathalie.
Oui, voilà.
Eh ben je vous laisse aller les chercher. Voilà. Il y a beaucoup d'émissions qui sont souvent enregistrées sur des radios. Là, vous venez d'avoir la preuve que Radio Présence, c'est en direct. Voilà, c'est des moments comme ça qu'on vit, un peu gênant des fois, surtout pour celui qui doit combler, qui doit attendre. Que voilà, ça fait beaucoup rire les gens qui sont en plateau. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. On va te rappeler le numéro et le site internet. Nathalie va revenir essoufflée pour cette première veillée et à mon avis, ça va être plutôt pas mal. Ah, elle est là, elle est de retour, Nathalie. Ça y est, on a tout ce qu'il faut.
Oui,
on a tout ce qu'il faut, ça y est.
Oui.
Les invités sont au complet.
Ils sont au complet.
Beaucoup d'invités.
Oui, beaucoup d'invités. Oui. On va peut-être.
On va peut-être commencer pour cette première veillée.
Alors, on rappelle qu'on est dans un temps aussi d'un Radio Don spécial. C'est une première journée. 3 journées Radio Don 2024 sur ce thème et c'est le fil conducteur depuis ce matin. Le thème de l'espérance. Et puis, je rappelle à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent que nous entrons aussi dans ce beau et grand jubilé 2025 sur ce thème de l'espérance. Puisqu'on parle de l'espérance, je souhaitais introduire ces quelques premières minutes un extrait de ce beau poème de Charles de Péguy qui dit « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout. » Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux. Il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est, la charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras des deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance avance, et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher le monde, et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Extrait de La petite fille Espérance. Donc bienvenue à vous tous et bonsoir chers auditeurs qui allez participer à ces 2 heures de direct. Ce soir, de nombreux invités en plateau et je souhaitais donc vous donner en cadeau ce soir donc de belles rencontres, des générations aussi, de tous les âges de la vie et en particulier voilà, un cadeau en introduction. Vous allez découvrir donc de belles personnes, des lycéens en classe de terminale du lycée Le Caouzou autour de cette table et c'est avec eux que nous commençons ce direct. Et ce sont des cadeaux pour vous ce soir. Donc écoutez cette jeunesse ce soir qui va vous faire donc des cadeaux. Alors, je salue sans plus tarder à ma droite Annie. Bonjour et bonsoir.
Bonsoir.
Quelques mots de présentation.
Bonjour, je m'appelle Annie, je suis en classe de terminale au Kaozu et je suis ravie d'être ici.
Maxence, bonsoir.
Bonsoir, moi donc c'est Maxence et je suis aussi en terminale au Kaozu et j'ai 17 ans.
Et bonsoir Xavier.
Oui, bonsoir, moi c'est Xavier, je suis également élève en terminale au Kaozu.
Alors Annie, élève en classe de terminale, vous avez aussi un beau parcours et un beau parcours de foi, un cheminement particulier, vous avez déjà le sourire, hein, voilà, un grand sourire, vous connaissez vos deux camarades ici présents, Xavier et Maxence, vous faites un beau chemin de foi puisque vous vous préparez, et donc vous allez pouvoir aussi témoigner ce soir, vous préparez quelque chose de beau et de grand pour 2025. Alors racontez-nous et témoignez.
Oui, exactement. Alors, je prépare mon baptême. D'ailleurs, on a eu la date il n'y a pas très longtemps, donc ce sera le dimanche de Pâques de cette année, et avec la communauté étudiante de Toulouse.
Alors, comment s'est passé pour vous un peu cet appel à faire finalement cette démarche en vue de recevoir le baptême ? C'est pas rien à 17 ans.
Oui, ça a été une grande décision et c'est surtout un grand bonheur. J'ai toujours été entourée, j'ai toujours été entourée des valeurs que prône la foi catholique, mais on m'a pas transmis la foi au sein de ma famille. Donc c'est en étant au Kaozu, la première année, donc je suis arrivée au Kaozu pour le lycée. La première année, j'ai eu évidemment les cours de formation humaine dans le cadre du lycée, mais c'était pas j'ai toujours été intéressée par les valeurs, mais juste les notions qu'on aborde dans ces matières-là. Et c'est en première, dans la classe de Xavier Maxence, on s'est assez rapidement liés d'amitié. Et c'est eux qui m'ont aidée dans mon chemin vers la foi parce que j'ai pu assister à leur foi très vivante.
Ça s'est passé comment pour vous, Maxence et Xavier, un peu cette rencontre, parce que Annie parle aussi de cette amitié qui a été aussi un point fort pour faire une telle démarche. Vous avez été évangélisateur, vous avez annoncé Jésus. Comment ?
Moi, ce que je trouve le plus beau dans l'histoire, c'est que si ça se fait, ça s'est fait de manière 100% naturelle. C'est simplement, on s'est rencontrés donc dans la même classe et on a juste créé une amitié par pur hasard parce qu'on a été amené à se rencontrer. Et c'est comme ça que dans notre vie de tous les jours, elle a pu voir aussi notre quotidien et apprendre plus sur notre vie et donc apprendre aussi sur notre foi, ce qui a attiré Annie à se poser des questions et à nous poser des questions et donc à la ramener vers la foi.
Qu'est-ce qui a été important pour vous dans ce quotidien ?
Moi, je pense que ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à me tirer vers la foi. Ils ont toujours été mes amis avant tout. Ils ont toujours voulu juste qu'on entretienne une amitié sans plus, au final. Et c'est peut-être justement en comprenant que ils n'avaient aucune attente de moi que je cherche et que je trouve la foi. Ils seraient restés mes amis et on serait restés amis si j'avais décidé de jamais la chercher, de jamais poser une seule question. Et pourtant, c'est justement en posant des questions et juste quand eux, ils me racontaient, quand ils étaient partis au Rosaire, par exemple, comment ça s'était passé pour eux, ce qu'ils y vivaient. C'est comme ça que j'ai été amenée à me poser moi aussi des questions.
Est-ce que vous-même, Xavier et Maxence, ça vous fait aussi grandir dans la foi, le cheminement aussi de votre ami qui se prépare à recevoir ce baptême en 2025?
Moi, j'ai envie de dire que bien sûr, ça nous fait grandir parce que on est avec elle, on l'accompagne depuis le jour zéro de sa foi, et donc quand on est là en tant qu'accompagnateur au baptême, bah déjà c'est un honneur et un privilège, et du coup, bah nous, ça nous remplit également de joie et ça nous fait cheminer. Donc parce que en assistant à la préparation au baptême, nous aussi, ça nous fait réfléchir sur cette préparation que on n'a peut-être pas fait parce qu'on s'est fait baptiser alors qu'on était encore enfant.
Alors vous avez vécu en février dernier, en février 2023, puisque vous m'avez chacun et chacune écrit, vous avez vécu, vous, Annie, le décès de votre tonton. J'ai été émue en lisant un petit peu l'épisode aussi, le cheminement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode, hein, tout en gardant le but ce soir, c'est donner de la joie, d'entrer dans cette espérance qui fait grandir. Comment avez-vous traversé cet épisode qui est un épisode important et qui vous conduit aujourd'hui, dans quelques mois, à recevoir ce baptême dans l'Église catholique?
C'est sûr que c'était un moment particulier à vivre, je le souhaite à personne. En février dernier, mon tonton, il a été diagnostiqué avec un cancer. Ça a été assez fulgurant. Il est allé à l'hôpital, il est décédé en moins d'un mois. Et c'est à l'hôpital que, pour la première fois, j'ai prié en direction de quelqu'un, de Dieu, plutôt que juste... J'ai toujours eu des petites prières en me disant « Ah, j'espère ci, j'espère ça », et je les disais à voix haute, c'était des vraies prières. Mais pour la première fois, et je pense aussi parce que je voyais les gens qui m'entouraient prier en direction de quelqu'un, pour la première fois, j'attendais vraiment une réponse, j'avais vraiment besoin qu'on me réponde, j'avais vraiment besoin qu'on me dise « Mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller ». Et c'était un cancer qui était absolument incurable, il aurait jamais pu s'en tirer... quel que soit le miracle, jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai aussi pu rencontrer un homme d'église à l'hôpital qui est venu pour que mon tonton puisse se confesser sur son lit de mort. Et ça a été un moment très marquant parce que je crois que c'était la première fois que j'interagissais de moi-même. Je suis allée lui parler, je lui ai dit... mon père, écoutez, moi je sais pas trop comment prier, je sais pas trop comment faire, mais j'aimerais vraiment que quelqu'un m'entende et j'aimerais vraiment que ce ne serve pas à rien. Et je pense que ça a été un moment décisif dans ma foi parce que c'est la première fois que j'ai prié en direction, j'ai voulu une réponse, c'était un peu presque pétulant, je voulais qu'on me réponde, je voulais qu'on sauve mon tonton et je voulais que tout aille mieux et j'étais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas le cas. Mais je pense que ça a été un moment décisif. Et après cela, j'ai décidé, maintenant, tu as envie de prier en direction de quelqu'un, toujours.
Donc après un événement et le deuil, finalement, la séparation et la mort, déclic, réveil, et puis vous continuez. L'espérance est au programme ce soir et puis vous êtes accompagné de votre animatrice en pastorale, donc je rappelle que vous êtes élève au lycée Le Caouzou. Sœur Claire Cécile, comment avez-vous un peu préparé cet événement ce soir, cette veillée, ce plateau et un peu cette continuité aussi puisque on s'était rencontrés lors du rosaire à Lourdes, voilà, comment avez-vous travailler ce thème autour de l'espérance avec vos jeunes ici présents?
Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer. Nous avons eu 20 minutes.
20 alors, minutes de préparation.
Voilà, oui. Une récréation.
Le temps est précieux, le temps est compté.
Voilà, oui, c'est compliqué. Oui. Le temps d'une alors, nous récréation. Nous voyons toutes les semaines, puisque donc Xavier et Maxence sont les accompagnateurs de Annie lors de la préparation baptême. Mais il y a aussi deux autres garçons qui sont présents. Donc on fait un groupe de 5, plus ou moins ça fait 6. Bon, donc j'allais dire que la préparation au baptême n'est pas un travail sur l'espérance, mais ça y conduit. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous avons pris ce thème de l'espérance pour ligne rouge de nos cérémonies d'ouverture et de clôture. Et à cette occasion-là, il y a eu beaucoup de discours, il y a eu énormément de travail fait par les différentes classes sur ce thème-là, aussi bien des poèmes, des textes, des dessins. Donc, effectivement, nous avons quand même ce thème de l'espérance beaucoup dans les oreilles et beaucoup dans le cœur. Ça, c'est la première chose.
Alors, on interroge encore, on n'est pas noté ce soir et vous n'êtes pas noté, vous êtes juste écouté ce soir par les auditeurs donc de Radio Présence. Maxence, c'est quoi pour vous l'espérance, hein? Alors, l'espérance pour aujourd'hui, pour notre monde aujourd'hui, la société dans laquelle vous vivez, l'espérance peut-être dans votre vie quotidienne en tant que jeune élève en classe de terminale, c'est un signe de quoi?
Pour moi déjà l'espérance c'est une grâce qu'on reçoit, c'est une des trois vertus théologales qu'on nous offre gratuitement et quelque chose qui est surnaturel et qu'on ne pourrait pas acquérir seul et par nous-mêmes. Donc c'est une grande chance qu'on a de pouvoir espérer quotidiennement, que ce soit dans les petites choses du quotidien, espérer le mieux pour nous ou même espérer après la mort. Ça donne aussi un sens à notre vie, pouvoir espérer que notre vie ne soit pas vaine et que suite à la vie, suite à la mort, il y ait une autre vie en fait. Et aujourd'hui, je dirais que l'espérance, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher seul. Elle a besoin aussi de la foi, donc une autre vertu théologale, contrairement à la foi qui pourrait, elle, marcher seule. Donc là, cette particularité, comme dit Charles Péguy, cette complexité de devoir s'allier avec d'autres. Et dans notre société, elle est d'ailleurs souvent entremêlée avec la foi. On ne parle plus beaucoup d'espérance, mais de foi. Quand quelqu'un est dans l'épreuve, on lui dit de garder foi et plus rarement de garder espérance.
Et pour vous, Xavier, vous avez aussi tous écrit, hein, voilà, donc je vous ai lu, vous m'avez écrit que dans ce monde qui a l'air d'être dur, une société qui change, où tout s'accélère, où tout semble parfois un peu ténébreux, hein. On a eu, il y a quelques semaines, dans la Ville Rose, ici à Toulouse, le fameux spectacle urbain La Porte des Ténèbres. Comment rester dans l'espérance, entrer dans la lumière, quand on est jeune, quand on a 17 ans aujourd'hui? Xavier.
Ah oui, exactement.
Où se situe votre espérance?
Oui, c'est pas facile quand on voit tout ce qui se passe tout le temps aux infos, quand on allume son téléphone, la télé ou même la radio. Mais je pense que l'espérance, c'est quand même ce qui fait qu'on se tient debout, qu'on continue de vivre en ayant le sentiment que les choses vont aller vers le bien, vers le mieux, que ça va s'améliorer et il faut qu'on œuvre pour. On y croit, on espère et voilà dans ces choses qui sont difficiles, ce quotidien, la société qui est dure avec des choses atroces qui se passent partout dans le monde, les guerres, la foi, c'est un peu la religion, c'est un peu notre rempart et ce qui nous fait nous lever le matin pour nous dire il faut améliorer les choses.
Donc restez dans l'espérance, chers auditeurs, restez à l'écoute de cette émission ce soir et ce plateau, un plateau avec une diversité d'intervenants. Vous avez pu entendre un peu tous ces jeunes et bravo parce qu'il fallait introduire un petit peu le début de soirée. À mes côtés, ils sont nombreux ce soir en studio, hein, on est près de 12 personnes. Éric de Russe, bonsoir Éric de Russe. Alors je fais une présentation rapide pour ceux et celles qui vous découvrent et qui ne vous connaissent pas. Vous êtes poète, hein, vous êtes écrivain, professeur de philosophie, vous êtes spécialiste aussi de Sainte-Edith Stein, vous êtes professeur de philosophie dans un établissement à Toulouse, le lycée Saint-Joseph de la Salle, là, près de vous, des élèves qui n'ont pas encore pris la parole, mais qui vous suivent, vous n'êtes pas noté ce soir. Je voudrais vous inviter là, spontanément, pourriez-vous réagir un peu avec ces témoignages des uns et des autres que vous venez d'entendre à l'instant, Éric de Russe, et merci.
Oui, alors ce à quoi je réagirai immédiatement, c'est à travers ces témoignages, on est parti de témoignages et les jeunes, par définition, sont les témoins d'un avenir qui est en promesse, qui n'est pas, mais vers lequel ils orientent nos regards. Donc je trouve que débuter une émission sur l'espérance par cet ancrage, par cette dimension de l'incarnation, c'est fondamental. Et en même temps, on voit que ces jeunes qui témoignent de leur espérance en témoignent à partir de situations concrètes où cette même espérance a été mise à mal, précisément, que ce soit le deuil ou la lucidité à l'égard de la difficulté de certains contextes. Nous pourrions dire des raisons de ne pas espérer, qui saturent peut-être la conscience des individus. Et donc ces jeunes, je trouve, ce à quoi je serai attentif pour commencer, c'est à la fois la dimension, la charge symbolique qu'incarnent ces jeunes qui sont au premier chef les témoins, parce qu'ils sont on promesse et on gère, mais enfin, je veux dire, vous êtes au seuil de temps de possible. Vous êtes au seuil de temps de possible et que vous vous hissiez dans une certaine orientation du regard, dans cette ouverture, car l'espérance, c'est aussi une orientation du regard et aussi du regard intérieur, et aussi la dimension incarnée, à savoir cette orientation, elle s'ancre dans la concrétude d'existence qui ne sont pas épargnées par des difficultés ou des raisons de ne pas espérer. Eh bien, ces raisons de ne pas espérer, ils en ont déjà fait l'expérience, mais il y a une poussée intérieure de la petite fille dont parlait Peggy, et qui est justement l'une de ces vertus dont il a été fait question, les vertus théologales, qui a cette spécificité, nous en reparlerons peut-être, et cela a été très justement dit, de s'articuler sur les deux autres. Et il y a cette magnifique, finalement, peut-être aussi une sorte de reflet de la réalité trinitaire, car espérance ne va pas sans la foi et sans la charité, puisque l'espérance, on pourrait dire que c'est la mise en œuvre de la foi qui opère par la charité. C'est la mise en œuvre de la foi qui opère par la charité. Voilà, c'est la première réaction.
Alors, au cours de la soirée, on a encore un peu de temps devant vous. Vous avez ici en plateau, donc, chers auditeurs, il y a du monde en plateau. Merci à vous, Éric Derus. À mes côtés, nous a rejoint Suzanne Giuseppi Testu. Alors, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Vous êtes, et bonsoir, Suzanne.
Bonsoir.
Vous rapprochez bien du micro autour de cette table, toujours bien entourée avec cette jeunesse ici présente. Et je vous invite, vous tous, lycéens en classe de terminale, pour prendre cette stature aussi de missionnaire. Vous êtes cette génération d'aujourd'hui, mais de demain, l'avenir de l'Église et l'avenir du monde. Donc je compte sur vous ce soir pour être ces apôtres. Hein? Voilà, donc n'hésitez pas aussi à intervenir avec vos deux intervenants en plateau ce soir, Éric Derus, donc professeur de philosophie, et puis Suzanne, merci, vous venez de loin pour participer à cette veillée.
Oui, je viens de Bagnols-sur-Mer, mais je suis très heureuse d'être parmi vous. D'abord parce que je retrouve mon amie Nathalie, bien sûr, mais aussi parce que c'est la première fois que je participe à une rencontre sur une chaîne de radio avec des jeunes. Et comme le dit Nathalie, et nous avons eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, vous êtes, moi je pars en mission depuis de nombreuses années au Proche-Orient. Je vais un petit peu au secours des communautés religieuses qui sont en difficulté. Et je crois que c'est à vous maintenant de prendre le relais, de prendre la suite. Et je trouve qu'être là ce soir, c'est extraordinaire et c'est un merveilleux encouragement. Et pour une vieille bonne femme comme moi, c'est une grande grâce.
Alors
voilà, merci à tous d'être là.
Merci Suzanne, vous avez dit que vous étiez la mamie ce soir.
Oui, je suis la mamie, j'ai 77 ans. Bien passé.
Alors on peut saluer, je pense que vous serez d'accord avec moi, tous les jeunes, on peut saluer tous les parents, tous les grands-parents, tous les papis et toutes les mamies qui nous écoutent ce soir. Donc voilà.
Mamie, mais avec l'énergie encore.
Avec l'énergie, oui, vous avez beaucoup d'énergie. Mais je ne vous ai pas trop présenté, si ce n'est que vous êtes laïque franciscaine, que vous avez écrit de nombreux ouvrages. Voilà,
oui,
fait de l'accompagnement spirituel.
L'accompagnement spirituel, les missions à l'étranger, au Proche-Orient.
Et puis spécialiste,
voilà,
un peu spécialiste comme vous et Éric Derus, vous Suzanne, vous êtes spécialiste, vous avez beaucoup écrit sur cette grande figure de sainteté, Saint François d'Assise. Vous avez une actualité avec ce dernier livre qui est paru récemment aux éditions Salvator, François d'Assise, un cœur qui écoute.
Oui, alors je crois qu'il écoute depuis 800 ans et je crois qu'il écoutera encore longtemps, mais il faut savoir l'écouter, il faut apprendre à l'écouter.
Alors on en parlera de François, comme on parlera aussi de Saint-Edichstein, puisque vous-même, Éric Derus, vous êtes aussi, c'est une amitié qui dure depuis plus de 20 ans avec Saint-Edichstein. Signe d'espérance, ces visages de sainteté.
Vous voulez que je dise un mot d'Edichstein?
Oui, très vite.
Alors, c'est un témoin d'espérance. Alors, je l'ai travaillé philosophiquement, c'est vrai, mais c'est aussi une relation d'amitié au-delà du travail académique. Et en effet, je pense que si elle est un témoin d'espérance, c'est parce que elle a été plongée dans une époque qui suscité On ne peut plus l'espérance. Hein. Elle est morte en 1942. Elle est née en 1891, mais elle est morte en 1942. Donc, elle a été déportée à Auschwitz et elle a connu la montée de ce totalitarisme, de la sauvagerie, de la barbarie. Et on peut dire qu'elle a porté haut le flambeau de l'espérance, parce qu'elle-même nous dit que justement, l'espérance est le déploiement de la foi et la mise en œuvre de la charité. Donc on verra comment elle l'a vécu, mais et en quoi elle nous enseigne.
Alors on va vous retrouver tous, c'est le temps d'une première pause musicale, un peu de respiration, et puis les auditeurs, n'hésitez pas peut-être à joindre aussi la radio.
Le temps pour vous de nous appeler 05 62 48 63 00, ce numéro qui vous permet de donner maintenant, tout de suite, ou bien sur le site internet de Radio Présence, www.radioprésence.com. 20h25, dans quelques instants, nous retrouverons Nathalie Cardon, qui sera encore une nouvelle fois avec ses invités, jusqu'à 22h, le temps d'écouter Grégory Turpin, l'espérance est là, c'est dans le thème de ce Radio Don. On vous retrouve au standard de Radio Présence, 05 62 48 63 00. À tout de suite.
Je veux dire à ceux et à celles qui ont des larmes plein les yeux, des gouttes d'âme qui étincellent pour crier qu'ils sont pas heureux. Je veux dire si le bonheur ne nous veut pas et si les rires ne viennent pas. Moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. Je veux dire à ceux et à celles qui vivent dans les bosses et les creux, qui ne sont pas nés sous le même ciel que d'autres qui en sont moins dignes qu'eux. Je veux dire si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas. Moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. Qu'on appelle les gens de peu, qui joignent pas de bouts de ficelle et se tiennent le ventre creux. Je veux dire, si le bonheur ne nous veut pas, qu'il passe et ne s'arrête pas. Moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là.
Radio Don en direct pour ce premier plateau, ce jeudi soir, je rappelle, chers auditeurs, que nous avons besoin de vous, puisque pour poursuivre cette mission d'évangélisation, d'accompagnement auprès de vous, la radio a besoin d'un financement, donc n'hésitez pas aussi à appeler au 05 62 48 63 00. Voilà, on continue ce plateau riche, riche de rencontres dans cette diversité aussi des générations, puisque nous avons presque une mamie, mais bien tonique. Et puis nous avons cette jeunesse qui est aujourd'hui en mission ce soir, des élèves. Alors il y a eu un roulement là, un changement, changement de visage et puis de voix. Quatre élèves en classe de terminale. Quatre élèves du lycée Saint-Joseph de la Salle un animateur en pastoral qui est à vos côtés, qui vous a préparé. Je vais peut-être l'interroger tout de suite. Il sera surpris. Bonsoir Bastien Huc.
Bonsoir.
Alors tout d'abord merci parce que nous avons collaboré, nous avons communiqué par mail, par téléphone pour préparer aussi ce déplacement de 4 élèves de terminale ce soir pour ce direct. Comment avez-vous préparé ces 4 élèves de terminale que nous allons donc découvrir un peu dans leur expérience et leur témoignage?
Alors, je ne vais pas être très original, je vais reprendre les propos de...
Sœur Claire-Cécile. Le rythme scolaire étant ce qu'il est, on a eu très peu de temps pour préparer ça. Nous, ça s'est fait plutôt sous forme numérique, sous forme de messages, autour justement comment les jeunes vivent cette espérance au quotidien et ce que cette espérance signifie pour eux.
Alors, on va leur laisser la parole, si vous voulez bien. Et je me tourne vers Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Alors, vous êtes élève et en classe de terminale.
Oui. Oui.
Là, vous êtes suivi. Vous avez votre professeur de philosophie, Monsieur Éric De Rus.
Oui, tout à fait.
Vous vous sentez bien?
Oui,
vous
oui,
êtes détendu.
Tout va bien.
Il vous notera pas ce soir. Promis.
J'espère.
Promis. Alors, vous avez 18 ans. Donc, j'ai reçu quelques informations vous concernant, qui peut donner lieu ce soir aussi à un beau temps de témoignage. Vous avez été baptisé en 2012 au Brésil.
Oui.
Vous avez vécu 5 ans au Brésil et en 2023, vous avez reçu la confirmation. 2012, vous étiez un préadolescent. Vous étiez. Qu'est-ce qui s'est passé pour demander le baptême en 2012?
Alors, en fait, je l'ai pas demandé, mais c'est ma mère qui voulait le faire. En fait,
alors racontez-nous, on veut tout savoir.
Je m'étais fait baptiser, mais j'avais pas une grande connaissance de Dieu comme on pourrait l'avoir. J'avais pas forcément étudié le sujet avant le baptême. Et je sais que dans ma famille, ils sont très très catholiques. Et donc, j'ai deux cousines, voilà, qui avaient la vingtaine, qui sont venues chez moi et qui nous ont enseigné à mon frère et moi à comment prier Dieu, parce qu'en fait, j'avais peur la nuit. J'avais peur la nuit quand je dormais et donc je leur ai dit oui, qu'est-ce que je peux faire? Donc elles m'ont dit tous les soirs tu peux prier et donc j'ai essayé une fois, ça a marché et donc depuis je le fais tous les soirs, voilà.
Donc ça, c'était le premier miracle.
Oui, voilà.
Alors, vous m'avez aussi écrit que vous avez un objectif. J'ai beaucoup aimé. J'ai souri. J'ai été surprise aussi. Vous pouvez témoigner un peu de l'objectif que vous avez?
Alors oui, donc mon objectif. Après la confirmation, en fait, je me suis rendu compte, mais ce serait de convertir les gens, de leur faire connaître Dieu, en fait. De leur faire connaître, surtout mes amis, mes connaissances, voilà, les gens que je connais, de leur faire connaître, prier pour eux, toujours. Et voilà.
Et alors, ça marche? Vous êtes lancé
dans
l'annonce de la bonne nouvelle auprès de ses camarades?
J'ai déjà commencé, en fait. J'ai un ami qui aujourd'hui veut se baptiser, parce qu'avec, en fait, mon parrain de confirmation, qui est aussi un de mes meilleurs amis, on essaye de faire connaître Dieu à cet ami-là, qui d'ailleurs a fait le rosaire cette année. Et donc, pendant le rosaire, surtout lui, parce que lui, il a fait toute la semaine, moi, j'ai fait qu'une petite partie. Mais pendant ce rosaire-là, justement, il lui a parlé de Dieu, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est beaucoup rapproché de Dieu. Et là, il va prochainement, normalement, se baptiser, je pense.
Alors, puisque vous avez parlé du rosaire, vous parlez de Lourdes. Et donc, en vous lisant, Lourdes n'était pas prévu au programme. Et c'est sur un coup de tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
En fait,
c'est l'Esprit Saint qui vous a inspiré de prendre le train sur un coup de tête?
Alors, voilà. En fait, l'année dernière, je l'avais fait toute la semaine. Donc, j'avais été commissaire. Et j'avais beaucoup aimé le faire, il faisait chaud, il faisait beau, et aider les gens, j'aimais bien faire ça. Et cette année, je voulais le refaire, mais c'était en terminale, et bon, là, il fallait plus se concentrer sur les études, et donc mes parents m'ont dit non, pas cette année, ça va être trop compliqué pour rattraper les cours, sachant que ça va très très vite aussi. Donc l'idée que j'ai eue, c'était d'ailleurs avec une amie de ma mère, qui venait du Brésil à ce moment-là, nous rendre visite, et donc elle m'a dit mais au pire tu prends le train et tu vas le vendredi soir pour passer juste 2 jours là-bas. Et donc je lui ai dit ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc vraiment tout d'un coup j'ai vraiment eu envie, elle avait illuminé mon chemin, voilà, j'ai eu envie d'y aller et de le faire. Et donc j'ai pris le train après les cours, j'ai pris l'hôtel et je suis resté vendredi soir plus samedi matin et un peu l'après-midi.
Alors, c'est une question que j'ai pas encore posée. Vous intervenez ce soir à la radio et en direct. Des auditeurs vous écoutent de toutes les générations. Donc des parents, des grands-parents, peut-être des camarades. Mais si je vous demandais de parler et d'avoir un mot d'espérance pour chacun et chacune, je vous laisse la parole.
Alors, en fait,
vous pouvez vous adresser à ceux qui vous écoutent.
D'accord. Mais en fait, personnellement, en fait, je dirais pour moi l'espérance, peut-être pas pour tout le monde ici. C'est pas une attente, quelque chose où on devrait attendre, mais ce serait plutôt en fait ce qui constituerait notre vie. C'est surtout un ensemble d'objectifs, d'inspiration qui vont nous amener à faire quelque chose. Et donc, si on a espoir pour quelque chose, il faut le faire pour réussir cette chose. On peut pas rester passif et attendre à espérer, on va dire. Et juste, il faudrait toujours passer à l'action pour faire ce qu'on veut. On peut pas espérer dans l'attente, en fait, passivement. Pour moi, surtout. Et donc voilà, donc j'essaye toujours de faire ce qui me passe par la tête et de ne pas attendre trop longtemps, sinon après c'est plus faisable en fait.
Vous souriez, Paul, vous avez envie de réagir. Alors Paul, vous aussi, vous êtes donc élève au lycée Saint-Joseph de la Salle. Vous avez 17 ans, vous êtes l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, voilà. Et vous aussi, vous avez plusieurs engagements, notamment aussi expérience du rosaire à Lourdes. Décidément, la jeunesse a un rendez-vous avec Marie à Lourdes. Vous avez eu aussi l'occasion de vivre des retraites spirituelles. Parlez-nous et pourquoi la participation aussi à ces deux festivals mariales à Notre-Dame-du-Loup. Je vous vois sourire.
Oui, je souris parce que c'était vraiment génial.
Si c'était génial, faut partager.
Oui. Ouais. Bien, le premier, c'est mes parents qui ont proposé une retraite spirituelle sous la forme plutôt d'un festival, donc vraiment joyeux et tout. Et on y allait, moi je savais pas trop à quoi m'attendre, et c'était vraiment formidable en fait, c'était très adapté pour les jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes, et donc il y avait un groupe de musique, et cette première fois aussi il y avait un frère qui nous a appris à développer les charismes, donc les dons de l'Esprit Saint. Et ça peut pas trop se décrire, ça peut que se vivre. C'était vraiment splendide, notre force, la force de la prière, de l'énergie des jeunes qui pouvaient guérir comme ça d'autres personnes simplement en les touchant ou en disant ce qui nous venait à l'esprit, ces images qui en fait leur correspondaient et révélaient ce qui leur souffrance, révéler ce qui se passait mal dans leur vie afin qu'elles puissent le traiter et donc grandir, guérir.
Qu'est-ce que vous avez, vous, reçu, que vous pourriez peut-être témoigner? Il y a un jardin secret, bien sûr, qu'il faut garder, certainement, mais ceux et celles qui vous écoutent, là, ce soir, et c'est un beau cadeau que vous faites tous, vous témoignez, et c'est courageux, et vous êtes en mission ce soir.
Oui. Oui, ben justement, en parlant de mission, en fait, moi, ce que j'ai désiré, c'est après ce festival de devenir missionnaire, donc de parler. Enfin, moi, je voulais parler de Dieu aux autres, et en même temps, j'ai demandé surtout à Marie, parce que je suis proche avec Marie, d'être toujours dans la joie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément la parole qui me permettrait d'évangéliser, mais plutôt ma joie d'être chrétien, ma joie d'être chrétien qui permettrait aux autres de se rendre compte que c'est cool d'être chrétien et c'est pas difficile en fait, on se donne à Dieu et lui nous donne plus que ce qu'on lui a donné.
Alors c'est cool d'être chrétien, c'est cool d'être joyeux pour ce monde un peu sombre, parce qu'on parle aussi d'obscurité, un peu de ténèbres. Vos camarades non croyants sont interrogés par en fait cette joie, puisque vous décidez d'entrer dans la joie de la mission. Hein. C'est presque un pari, c'est presque un défi. On imagine bien au quotidien.
Souvent, c'est dur de rester dans la joie quand alors certains camarades eux comprennent pas trop pourquoi croire en un dieu, ils trouvent ça bizarre, un peu idiot. Et justement en ce moment en philosophie on étudie la religion et eux ils sont pas d'accord avec certaines choses et ils nous demandent enfin pourquoi vous y croyez et tout. En même temps aussi, malheureusement, en critiquant dans le mauvais sens la foi chrétienne, Donc parfois, on, avec mon camarade, on essaie de les rectifier un peu, de leur expliquer que bah, c'est... Enfin, on les est, c'est pas une, une obligation, c'est un chemin, en fait, un chemin de vie qui permet de, bah, de vivre sa vie mieux et justement dans la joie et de vivre sa vie avec un but au bout, une espérance.
Éric de Russe, vous êtes revenu là à mes côtés. Suzanne, Giuseppe Testu, vous êtes revenu aussi en, en plateau. Hein. Ce soir, c'est une belle danse dans ce studio. Souhaitez-vous réagir donc à la prise de parole de Thomas que nous avons entendu et de Paul Éric de Russe. Hein, donc vous avez aussi, hein, vous êtes entouré de quelques élèves ce soir.
Oui. Je souhaite réagir. J'ai été très attentif à la, en fait, au caractère extrêmement vivant et incarné, au visage d'incarnation que ces jeunes donnent à l'espérance. Je m'explique. Dans le premier témoignage, il a bien été question tout d'abord d'audace, ce caractère missionnaire. Plusieurs en ont parlé. Et donc, l'espérance, c'est ce qui nous envoie aussi vers l'autre. Et donc vers l'inconnu. L'audace de l'espérance, c'est qu'elle impulse un mouvement d'ouverture en direction de ce qui nous échappe. Par définition, c'est l'inconnu. Or, ce qui filtrait dans les témoignages de ces jeunes, c'est que la confiance était plus forte que la crainte légitime que l'inconnu peut susciter. Puisque, et à cet égard, l'attitude naturelle à l'égard de ce qu'on ne connaît pas, c'est la fermeture ou c'est le retrait. Et là, ce que l'on entend plutôt, c'est précisément le mouvement inverse. Donc, c'est la confiance qui domine. Et il faut se souvenir que la confiance, c'est la même racine que la foi, fides. Donc, il y a bien, en fait, ces deux foi qu'il nous parle. Et dans cet envoi, on voit bien aussi que ce mouvement bénéficie de l'impulsion qui a été reçue par d'autres. Vous avez parlé de personnes qui ont compté et qui vous ont communiqué quelque chose de cette impulsion. Je réagirai encore sur peut-être deux points. Je dirais que l'espérance est ce qui envoie, et donc c'est à l'opposé de la passivité. Or, l'une des critiques couramment adressées à l'espérance est celle selon laquelle les personnes qui espèrent se contentent de ce que Sartre appelait une forme de quiétisme, donc une attitude précisément passive où l'on se croiserait les bras. Alors qu'en réalité, ce que nous avons entendu est strictement l'inverse, c'est la mise en mouvement et l'action, oui. Et une action dont je dirais que, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'espérance, c'est un principe d'action, et c'est même, il y a une dimension raisonnable de l'espérance. Kant, par exemple, le philosophe Kant dit que sans l'espérance en étant meilleure, il n'y aurait dans le cœur de l'homme aucun désir sérieux de faire quelque chose d'utile au bien général. Qu'est-ce qui vous permet de vous lever le matin si vraiment vous étiez convaincu que quoi que vous fassiez, de toute façon, cela a été condamné à l'échec? Sans espérance, vous ne vous lèveriez même pas. Je mets au défi qui que ce soit ici, d'être ici, ce soir, présent, s'il n'était pas mu par une forme d'espérance. Et j'ai été tellement heureux d'entendre tout cela, en fait, ce que j'essaie de thématiser, eh bien, en réalité, s'incarne dans la parole de ces jeunes. Et la dernière chose, c'est que l'espérance, me semble-t-il, nous en reparlerons peut-être plus tard, donc je ne le développerai pas, je pense que ce n'est pas exactement la même chose que l'espoir. Je dirais que l'espoir, c'est une attitude légitime. Nous avons de l'espoir, je dis bien espoir et pas espérance, nous nourrissons de l'espoir à l'égard d'un probable, de quelque chose qui peut être raisonnablement attendu. L'espoir s'articule sur l'attendu. L'espérance est ouverte à l'inespéré. Et c'est tout à fait autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'espérance commence peut-être là où nous n'avons pas de raison de nourrir l'espoir. Je dirais que là où l'espoir trépasse, l'espérance fleurit. Nous en reparlerons.
Suzanne, je vous vois, donc vous nous avez rejoint. Pourriez-vous un petit peu réagir au témoignage? Alors, je vous demande pas de réagir forcément avec les propos. Et merci à vous, Éric de Russe. Mais vous avez entendu tout à l'heure Thomas et Paul. J'ai entendu aussi cette audace missionnaire et cette audace aussi de la mission dans la joie. Et quand j'entends mission, quand j'entends joie, je vous vois, vous aussi. en amitié fraternelle avec Saint François d'Assise, le Saint de la Joie aussi. Vous pouvez réagir peut-être?
Oui, moi je ne peux qu'adhérer à ce qui vient d'être dit, évidemment. Et je suis très émue par ce qu'ont pu dire nos jeunes, parce que dans ce monde actuel, ils ont compris qu'on ne peut pas avancer sans la foi, et l'espérance est profondément liée à la foi. Et il est certain que on confond souvent justement ce qui a été dit, l'espoir et l'espérance. On a besoin d'encouragement, on a l'espoir de réussir un examen, on a l'espoir de guérir grâce au progrès de la médecine. François d'Assise avait espoir, comment dirais-je, de gagner des titres de noblesse en partant à la guerre, mais il s'est aperçu que la vie n'était pas là, parce que on se réfugie dans l'espoir, mais il n'y a pas la vie derrière, alors que l'espérance, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est un désir de vie, et c'est ce que François va expérimenter au fur et à mesure de son parcours. Donc c'est l'inébranlable confiance de François d'Assise envers la providence divine qui lui a permis jusqu'au bout d'espérer Dieu. Moi je dis espérer Dieu et espérer en Dieu, parce que espérer Dieu, c'est une attente. Je suis en attente de Dieu, mais espérer en Dieu, c'est avoir franchi le pas de la relation, de l'intimité avec le Seigneur. Et là, je suis dans l'espérance. Et je crois que c'est ce que nos jeunes ont su parfaitement bien exprimer. Et c'est ce qui procure cette joie inébranlable et qui permet de continuer malgré tout. Espérer au-delà de tout. Continuer malgré tout. Et ce que j'ai entendu est extraordinaire. Et je pense que nous avons ici ce soir de merveilleux missionnaires. Je le pense très sincèrement.
Et puis certainement aussi, on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais certains missionnaires aussi qui écoutent ce plateau, voilà, qui est un cadeau, en ces temps, à quelques jours aussi de ce temps de l'Avent, puisque nous allons la dans quelques jours. Hein. La mission est exigeante.
La mission est très exigeante, et sans espérance, sans accepter l'imprévu de Dieu, nous ne pouvons pas être missionnaires. Et c'est l'imprévu de Dieu. Et c'est l'accepter l'imprévu de Dieu, c'est être dans l'espérance. Si je ne suis pas animée par l'espérance, si elle n'habite pas en moi, si Dieu ne demeure pas en moi, je ne peux pas être missionnaire, parce que je n'accepterai pas cet imprévu de Dieu. Et quand on est missionnaire et qu'on se trouve dans des situations extrêmement difficiles, s'il n'y a pas cette espérance et s'il n'y a pas cette acceptation, je ne tiens pas.
Alors,
c'est une dynamique de vie.
J'ai bien envie de faire réagir à mes côtés Romane, c'est bien ça. Donc, vous avez là à mes côtés, derrière, puisque tout le monde se déplace ce soir, votre professeur de philosophie. Hein, mais je rappelle, il vous note pas ce soir. Romane, vous êtes lycéenne, donc en classe de terminale au lycée Saint-Joseph de La Salle. On va vous découvrir aussi dans quelques minutes. C'est la première prise de parole. Est-ce que vous pourriez peut-être réagir à ce que vous venez d'entendre de la part donc de Suzanne Giuseppi Testu?
Oui, j'ai vraiment trouvé très beau la manière dont vous avez parlé d'espérer Dieu et d'espérer en Dieu. Je crois que c'est une extrêmement belle nuance à laquelle j'avais peut-être pas pensé. Mais finalement, je crois que l'espérance, c'est quelque chose qu'on porte tous en nous, sans peut-être même s'en rendre compte. Quand j'ai dû réfléchir au sujet, je me suis dit c'est difficile d'en parler, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais finalement, ça m'anime vraiment au quotidien. Je pense, en tout cas. Et voilà, j'ai vraiment cette expression de espérer en Dieu. Je l'ai trouvée extrêmement belle.
Vous avez envie de réagir ? Suzanne, à Romane.
Oui, je crois que c'est une notion qui n'est pas souvent développée. On ne sait pas trop quoi dire. J'espère. Mmh. Mais en qui ? Mais pour espérer en qui, il faut d'abord espérer Dieu. Il faut espérer cette dimension. Il faut espérer cette présence. Et pour l'espérer, il faut déjà y croire. Et pour espérer en Dieu, c'est un dépassement de la foi. C'est une relation intime, inébranlable. Voilà.
Alors merci de l'avoir compris.
Vous êtes bien entourée, Suzanne, ce soir. C'est un cadeau pour vous d'être entourée de cette jeunesse.
C'est un très très grand cadeau.
Ces futurs missionnaires.
Oui, des futurs missionnaires.
Oui, qui se préparent.
Je les engage à continuer. Parce que, oui, vraiment, c'est une très grande joie pour moi. Parce que dans l'accompagnement spirituel, j'ai de très grandes joies, bien sûr. J'en ai quand je pars en mission, évidemment, malgré les risques que parfois cela comporte. Mais quand je vois ces jeunes, je dis que la relève est assurée.
Eugénie, donc vous êtes et bonsoir. Donc vous allez être écoutée. Hein. Vous êtes élève en classe de terminale au lycée Saint-Joseph de La Salle. C'est une première prise de parole. J'aimerais que vous réagissiez, comme Romane, ce que vient de dire Suzanne.
Moi, j'ai trouvé, ce que j'ai retenu, c'est quand vous avez dit l'espérance, c'est déjà le dépassement de la foi. Finalement, et pour moi, l'espérance, c'est ça, c'est presque, comme l'a dit Romane aussi, c'est au-delà de notre volonté, en fait, c'est plus le désir du ciel dont on a plus ou moins conscience. Et pareil, en lien avec ce qu'a dit Thomas, ce désir du ciel qui nous pousse à agir ou qui nous anime et qui nous encourage, qui nous donne l'envie, en quelque sorte, de partager ce qu'on porte, la foi qu'on porte au fond de nous. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous anime, que Dieu met dans nos cœurs. Plus on apprend à le connaître, et plus ce désir nous anime.
Oui, c'est très beau. Et il y a justement ce dépassement, parce que dans l'espérance, comment dirais-je, dans une situation extrêmement difficile, il y a abandon. Et la véritable espérance nous entraîne vers l'abandon, mais pas la démission. C'est un abandon en Dieu. Tu es là, je sais que tu es là, je m'abandonne à toi, j'espère Dieu, j'espère en Dieu, et je ne risque rien. Et je continue à avancer. C'est une très, très grande force.
Et je dirais aussi que c'est croire que Dieu agit en nous, indépendamment de ce que nous sommes, et juste c'est accepter de le laisser faire aussi.
Oui. Le laisser agir. Voilà. Se laisser agir par lui, y compris, et je peux en parler, y compris dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement dangereuses. Et c'est une très grande surprise d'ailleurs, parce que cela n'enlève pas la peur. La peur est là, dans certaines situations. Mais l'espérance va au-delà de la peur, parce que là, je rejoins le Seigneur au plus profond et dans le plus intime. Je suis vraiment avec le Christ, il est là, tout peut arriver, mais j'espère, je continue à espérer parce qu'il est là.
C'est
une grande expérience.
Une confiance profonde en Dieu.
Tout à fait, c'est la confiance. C'est au-delà, je dis au-delà de la foi, au-delà de la confiance, Dieu demeure en moi. Dieu demeure en moi, c'est Paul. On retrouve l'apôtre Paul.
Oui. Oui, Dieu demeure en moi. Et ça, je l'ai justement...
C'est Paul.
En parlant ça du fait de ressentir la présence réelle de Dieu en soi-même, j'ai eu l'expérience de le ressentir justement à ce festival marial où... je ressentais des frissons lors d'une veillée d'adoration où tout le monde s'approchait peu à peu pour aller toucher l'autel où on avait mis des je me souviens plus le nom pour la confession des toles du prêtre et chacun allait toucher les toles des prêtres posés sur l'autel et venait demander pardon. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu en moi, le feu de l'Esprit Saint me brûler, m'animer.
Oui, pardon.
Suzanne, génie.
je voulais réagir. Justement, c'est comme dit le psaume, espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Souvent, c'est... En fait, finalement, c'est Dieu qui met en nous la force de croire en lui. Et comme vous disiez aussi tout à l'heure, Suzanne, voilà.
Oui, c'est très beau, parce que tu confirmes une chose extraordinaire. Je dis, l'espérance s'accompagne souvent d'une audacieuse tranquillité. Espérer, c'est avoir de l'audace. Il faut de l'audace pour espérer. Il faut avoir du courage. Le courage est une très grande vertu, mais justement, elle s'accompagne d'une audacieuse tranquillité, d'une sorte de temps de repos. Ce n'est pas un abandon, c'est le repos en Dieu. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Et quand on l'a expérimentée, je le répète, on peut avoir peur, mais Dieu est là. Dieu est là.
Alors, nous allons avoir un temps de repos bien mérité, cher jeune missionnaire. Nous sommes en direct en ce premier soir et cette première journée du Radio Don. Une veillée demain, donc ne manquez pas le rendez-vous. Elle se poursuit, cette veillée. Et je vous propose de retrouver juste après cette plage musicale, dans quelques minutes. Elle nous écoute déjà, je crois. Elle interviendra donc par téléphone. C'est Bénédicte de Lillis qui est... auteur de nombreux ouvrages. Elle enseigne en tant que théologienne aux Bernardins, elle est mère de famille. Elle a écrit dans une belle collection Graines de Saints aux éditions MAM. En particulier, elle a écrit aussi deux livres que je vous conseille ce soir, cher lycéen. Un livre consacré à ce beau visage de Claire de Castelbajac, que vous connaissez peut-être certains, puisque Claire est un visage de notre ville de Toulouse. Elle a également écrit sur Carlo à Acusti, donc un livre sur la vie de ce jeune saint italien, et ainsi que sur Thérèse de Lisieux et Mère Teresa. Voilà, donc on va la retrouver dans quelques minutes avec ces belles vies, ces belles expériences de saints, des héros courageux, des saints qui ont suivi ce chemin périlleux, parfois rocailleux, qui se sont abandonnés, qui ont lutté et qui sont restés fidèles jusqu'au bout.
Merci beaucoup Nathalie. On rappelle le numéro pour participer, le 05 62 48 63 00, ou pour ceux qui veulent être peut-être plus discrets, le site internet de Radio Présence, www.radioprésence.com. Nathalie, est-ce que c'est...
Restez aussi généreux.
Oui, voilà, c'est vrai que généreux. Là, beaucoup de monde vous écoute. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui écoute Radio Présence.
Oui, alors,
il y a beaucoup de monde qui vous écoute, mais pas beaucoup qui appelle. Donc là, on va mettre de la musique. L'écoutez pas, la musique.
On parle trop.
Non, voilà, c'est très intéressant. On va mettre de la musique. On va dire aux auditeurs, n'écoutez pas la musique, appelez-nous.
Voilà.
Et on vous attend.
On le dit, on le redit. Merci,
voilà.
Jonathan.
05 62 48 63 00. Et on se retrouve juste après Natacha Saint-Pierre.